Votre invité, Patricia Martin, dans ce studio avec nous, Serge Toubiana, l'ancien directeur de la Cinémathèque, et il publie L'Amie américaine aux éditions Stock.
Qui a également dirigé, Serge Toubiana, les Cahiers du cinéma et qui est président d'Unifrance pour le rayonnement du cinéma français dans le monde. Bonjour Serge Toubiana.
Bonjour.
Vous étiez salle Playel hier soir pour cette 45e édition un peu particulière des Césars. Un vrai casse-tête pour trouver les mots justes, a dit Sandrine Tiberlin, la présidente. D'un mot, s'agissant évidemment de Roman Polanski, faut-il distinguer, dissocier l'homme et l'œuvre ?
Je sais, oui, parce que le film était éligible. J'accuse est pour moi un grand film, qui marche d'ailleurs très très bien à l'international, qui ne sortira jamais aux États-Unis.
Et qui marche bien en France aussi.
En France aussi, mais ne sortira pas dans certains pays qui ne l'achèteront pas, ne l'achètent pas. Et moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que à partir du moment où le film est éligible, on a le droit de voter pour lui. Alors, contester le fait que des membres de la profession puissent voter pour lui me semble une maladresse profonde. À partir du moment où le film fait partie des autres films qui méritaient ou ne méritaient pas César, je vois pas pourquoi on culpabilise ceux qui ont voté pour lui. Moi, ce qui m'a semblé très... j'ai ressenti ça en quittant la cérémonie, le tumulte à l'extérieur... manifeste, mais bon, j'allais dire un groupuscule, je ne vais pas parler comme le ministre de l'Intérieur, mais enfin, des militantes radicales qui contestent la présence même du film de Roman Polanski dans les catégories de films pour les différentes catégories du César. Et puis l'opinion au fond de la profession, des professionnels, qui est beaucoup plus mesurée. En fait, les votes se sont répartis sur plusieurs films. Les Misérables a été le gagnant, 4 Césars, Polanski en a eu 3, et puis d'autres films ont eu des prix. C'est-à-dire que, au fond, la profession est beaucoup plus mesurée. Elle vote en fonction de ses choix, de ses goûts. Le film de Polanski a très bien marché en France, 1,5 million d'entrées. Le film Les Misérables, 2 millions. Le film de Céline Sciamma a fait 300 000 entrées, et il marche très très bien à l'étranger, il faut le souligner, très bien aux États-Unis. Il va faire 8 millions de dollars de recettes, c'est énorme. Donc, si vous voulez, au fond, ce qui m'importe en tant qu'ancien critique et observateur et président d'Unifrance, c'est que le cinéma français produit des films d'une très grande diversité. Et ça, c'est notre point fort.
Autre question, Serge Toubiana, c'est ce qu'osent aujourd'hui dire les actrices publiquement. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que c'est quelque chose qui se savait et il y avait une omerta dans le milieu ?
Sur quoi ? Sur Polanski ?
Non, pas forcément sur Polanski, sur ce dont elles ont été les victimes.
Ben non, on ne le savait pas, évidemment. Moi, je ne le savais pas parce que je n'ai
jamais
été témoin de ça.
Jamais été témoin de ça.
C'est bien que ça se dise. Oui. Et c'est bien que les comportements évoluent, changent, et vite, mais évidemment. Et la déclaration de Adèle Haenel sur Mediapart a été, de ce point de vue-là, un moment essentiel, fondateur. Bon, après, je ne suis pas favorable à ce qu'on s'installe dans une posture idéologique, parce que, à mon avis, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de reconsidérer les métiers du cinéma en les ouvrant davantage aux femmes, à la diversité, effectivement. C'est en train de se faire en France. On va plus vite qu'ailleurs. On va plus vite que dans n'importe quel autre pays, et surtout, on va beaucoup plus vite qu'aux États-Unis.
Serge Toubiana, venons-en à l'amie américaine, donc Helen Scott, cette femme que vous mettez en lumière, qui avait pour rôle aux États-Unis de promouvoir les films de François Truffaut en particulier, mais de la Nouvelle Vague en général. Sa vie est un roman, elle-même aurait été une très bonne héroïne. Vous l'avez connue vous-même dans les années 60.
À la fin de sa vie. Oui. Elle a vécu en France entre 1966 et jusqu'à sa mort. Elle est morte en 1987.
Elle est d'ailleurs enterrée...
Elle est enterrée à 3 mètres de Truffaut. C'est très émouvant. J'ai été sur les tombes. Au cimetière Montmartre. Et elle a passé plus de 66 à sa mort en France. Elle est venue s'installer à Paris pour être plus proche de François Truffaut, qu'elle adorait. C'était son dieu, c'était son mentor. Elle a joué un rôle, comme vous l'avez dit, très important pour le faire connaître aux États-Unis. Je raconte leur rencontre en 60 à l'aéroport de New York, le coup de foudre, quoi. Un coup de foudre pour à la fois les 400 coups, bien sûr, mais aussi pour l'homme. Et elle va lui écrire,
Elle l'appelle Matruffe?
Matruffe, beau gosse, mon François chéri, elle l'aime
comme une amoureuse, non ?
Comme une amoureuse, mais aussi comme une mère juive. Enfin, elle est plus âgée que lui. Ouais. Elle est née en 1915, lui en 1932. Et elle lui écrit
Ma tendresse pour vous illumine ma vie, lui écrit-elle.
Parce que ce qui s'est passé entre elle et lui, à partir de 60, elle a un passé. Je ne connaissais rien de son passé.
Elle était mariée.
Elle était mariée.
Parce que Scott, c'est son nom de
femme. C'est son nom de mari, mais son mari, elle n'en parle jamais. Mm-hmm. Elle n'a pas dû vivre longtemps avec lui. En revanche, elle a été une militante féministe, alors puisqu'on parle du féminisme, très engagée. Une militante communiste très engagée.
Elle était née en Ukraine ?
Elle est née à New York,
à Brooklyn. À New York, mais ses parents venaient d'Ukraine.
Son père était en Ukraine, est né en Ukraine, a quitté l'Ukraine très jeune pour aller à New York. Et puis, dès qu'il a eu son diplôme universitaire de droit, en 22, il décide de retourner en Union soviétique parce qu'il est très fasciné par la révolution bolchevique. Il va écrire un livre d'ailleurs et il va séjourner 12 ans en Union soviétique. Et comme c'est loin de New York, il installe sa famille, dont Hélène, toute jeune, à Paris. Et donc, elle apprend le français, elle parle un français merveilleux, elle écrit en français de façon incroyable, y compris l'argot, elle a des formes.
Et c'était une femme très drôle, il faut dire
elle
aussi.
Elle est très drôle.
Mais le FBI, il avait à l'œil.
Ah, parce qu'elle était communiste. Elle a fait la résistance. Mmh. Elle a eu la médaille de la France libre. Ça, je le savais, ça, mais je ne savais pas pourquoi. Donc, j'ai enquêté, j'ai vraiment fait une enquête. Elle a rejoint Radio Brazzaville, puisqu'on est à France Inter.
En 43, elle part sur un cargo en répondant donc à l'appel du général de Gaulle.
Absolument. Donc elle a la médaille France libre. Elle fait partie de l'équipe du juge Jackson au tribunal de Nuremberg. Mm-hmm. Elle entre aux Nations Unies. Et, c'est un des chapitres que j'ai écrit aussi sur elle, il se pourrait qu'elle ait travaillé pour l'Union soviétique, parce qu'elle était communiste. Mm-hmm. Et on dit que beaucoup de communistes américains ont travaillé pour l'Union soviétique, comme ils le faisaient par conviction idéologique. Et puis, après, elle a une traversée du désert, le macartisme, on lui retire son passeport, on lui fait des ennuis, elle a plus de boulot, elle est vidée des Nations Unies, et puis, 60, elle rencontre Truffaut parce qu'elle est engagée au French Film Office. Et sa vie bascule. Et Truffaut lui offre l'occasion d'avoir une nouvelle vie dédiée au cinéma.
Et cette nouvelle vie que vous retracez vraiment très très bien dans L'Ami américaine, Serge Toubiana, merci, c'est publié chez Stock. Et puis je voudrais dire qu'est paru maintenant en folio un livre qui moi, à titre personnel, m'a bouleversé. Les bouées jaunes, qui racontent donc votre vie, votre longue vie belle et amoureuse avec Emmanuel Bernstein. Merci beaucoup.
Merci Patricia.